VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Pour le monde aujourd'hui, édition du lundi 3 décembre 2019, en direct de Washington, Nani Totalani
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Au Gabon, opération anticorruption, l'ex-directeur de cabinet du président écarté du gouvernement.
Au Tchad, attaque contre un poste de sécurité, bilan 4 soldats tués.
Acquittement à New York du principal accusé dans une affaire de pot de vin qui a plongé le Mozambique dans une grave crise financière.
La COP25 à Madrid en Espagne. Les pays du Sud demandent à ceux du Nord d'assumer leurs responsabilités.
Au Sénégal, la récurrence des AVC entre les mauvaises habitudes alimentaires et une prise en charge peu efficace.
Ne manquez pas notre page sport et la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, l'ex-directeur de cabinet du président, Brice Lacruche Alianga, a été écarté du gouvernement hier. Ce, après avoir vu plusieurs de ses proches arrêtés dans le cadre d'une opération anticorruption. Lundi soir, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Julien Nguké Bekadé a souligné l'importance de s'entourer d'hommes et de femmes alliant compétences, expérience, intégrité et loyauté avant de présenter un gouvernement dont M. Lacruche, comme plusieurs de ses proches, sont désormais absents. Ils sont au centre de l'opération anticorruption que les autorités gabonaises ont lancée à la mi-novembre et qui a conduit à l'arrestation de plusieurs personnalités.
Un proche collaborateur du président congolais, Félix Tshisekedi, et deux autres personnes ont été arrêtés pour détournement de fonds. Ils sont accusés par le parquet d'avoir perçu des commissions et d'avoir détourné des fonds auprès d'une firme canadienne, sans en avoir qualité, a déclaré un magistrat du parquet. Une lettre du ministre du portefeuille, Clément Couetté, mentionne que le Premier ministre condamne le mandat spécial que le coordinateur administratif des services personnels du chef de l'État accorde à la compagnie Saint-Louis BGM. Ce mandat permettait à cette société d'aller dans la ville diamantifère de Moudimaï afin d'effectuer des études sur l'exploitation du diamant par la société congolaise publique MIBA.
Au Tchad, 4 soldats ont été tués hier lors d'une attaque contre un poste récemment établi sur les rives du lac Tchad. L'attaque est attribuée à Boko Haram, un groupe très actif dans la région. Le point avec Bagassi Koura.
Nous avons tué 13 éléments de Boko Haram et nous déplorons la mort de 4 militaires et 3 blessés, a dit une source militaire, une information confirmée par le gouverneur de la province du lac Tchad, Noukir Char Fadine. Le gouverneur précise que le poste militaire a été créé entre la localité de Ngouboua et le village de Bagassoula après l'enlèvement le 31 octobre d'un médecin, d'un infirmier et de leur chauffeur. Outre ces enlèvements, 5 villageois ont été tués mi-novembre. Depuis septembre, Boko Haram avait également tué 4 civils et 3 militaires dans la même province. Le 14 août, une kamikaze s'est faite exploser dans la cour d'un chef traditionnel, tuant au moins 6 personnes. Depuis 2015, les pays ont mis en place une force multinationale mixte avec l'aide de comités de vigilance composés d'habitants pour lutter contre les djihadistes.
De nombreux enfants font partie des 14 victimes tuées dimanche lors de l'attaque d'un temple protestant attribué à des djihadistes dans l'est du pays. Les victimes sont tous de sexe masculin et beaucoup sont des enfants, dont l'âge varie entre 12 et 16 ans. Ils avaient sans doute accompagné les femmes ou leurs mères qui ont été épargnées par les terroristes, a affirmé une source sécuritaire. Hier, le Premier ministre a présenté ses condoléances et souhaité que cette nouvelle épreuve que la Fédération des Églises et Missions évangéliques et notre peuple rencontrent ne soit pas une opportunité pour baisser les bras et dire que le désespoir est permis.
L'ambassadeur américain en Zambie a dénoncé hier les relations pourries entre Washington et Lusaka après s'être récemment indigné de la condamnation à 15 ans de prison d'homosexuels dans ce pays d'Afrique australe. Les précisions avec Irine Herman Ongbo.
Arrêtons de jouer la comédie des relations chaleureuses et cordiales, a lancé l'ambassadeur américain Daniel Foote lors d'une conférence de presse à Lusaka. Le gouvernement zambien veut que les diplomates étrangers soient dociles, avec un portefeuille grand, ouvert et la bouche fermée, regrette-t-il, rappelant que les États-Unis accordent 500 millions de dollars d'aide annuelle à la Zambie. J'espère que le gouvernement zambien est déterminé à améliorer ses relations pourries avec les États-Unis, mais c'est une décision qui leur appartient, a-t-il indiqué, regrettant de n'avoir jamais eu l'occasion de rencontrer le ministre zambien des Affaires étrangères, Joe Malanji. Daniel Foote était horrifié par la condamnation à 15 ans de prison de deux homosexuels en Zambie. Les deux hommes entretenaient une relation consensuelle qui ne blessait aucunement personne, a souligné le diplomate américain. Il dit avoir reçu des menaces après avoir commenté la décision de justice et a décidé de ne pas participer aux événements liés à la journée internationale de lutte contre le sida.
Le principal accusé dans une affaire de pot de vin qui a plongé le Mozambique dans une grave crise financière a été acquitté hier à New York. Il avait mis en cause Felipe Nyusi, l'actuel président mozambicain. Le point avec Eric Manirakiza.
Le verdict rendu hier par le jury d'un tribunal fédéral de Brooklyn est un camouflet pour les autorités américaines. Elles avaient choisi de poursuivre des faits commis hors des États-Unis par un accusé qui n'était pas un citoyen américain. Dans ce procès qui a duré 6 semaines, le Libanais Jean Bostani était poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent et désavantager des investisseurs américains. Employé par le groupe de construction navale Privinvest, Jean Bostani a reconnu avoir versé des dizaines de millions de dollars à des officiels mozambicains pour l'obtention de 3 contrats d'équipement majeurs. Il a affirmé avoir versé 1 million de dollars à l'actuel président du Mozambique, Felipe Nyusi, sous forme de contribution à sa campagne électorale. Élu président en 2014, puis réélu le mois dernier, M. Nyusi était à l'époque des faits ministre de la Défense. Le Frelimo au pouvoir a toujours démenti ces accusations.
Un leader des rebelles soudanais, Yasser Arman, demande un délai de 3 mois sans donner de raisons spécifiques pour finaliser un accord de paix avec le gouvernement à Khartoum, alors que les pourparlers entre les deux parties doivent reprendre la semaine prochaine. Yasser Arman exhorte également Washington à retirer le Soudan de sa liste noire des États soutenant le terrorisme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump refuse de participer cette semaine à l'enquête parlementaire en vue de sa mise en accusation et affirme se battre pour l'Amérique alors qu'il se rendait hier à un sommet de l'OTAN à Londres. Le point avec John Linden.
C'est une mascarade, une véritable honte, ce qu'ils font à notre pays, a déclaré le président américain en visant les démocrates. Nous nous battons pour les Américains, a-t-il ajouté hier en quittant la Maison-Blanche pour se rendre à Londres. Le président ou ses avocats ont été invités par les démocrates à venir témoigner. La Maison-Blanche a décliné sans fermer totalement la porte. Pendant 2 mois, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a mené une enquête avec les auditions d'une quinzaine de témoins. Elle doit procéder ce mardi au vote de son rapport à transmettre à la commission judiciaire qui commence demain l'audition de spécialistes en droit constitutionnel. Cette commission judiciaire devrait déterminer si les faits reprochés à Donald Trump sont des possibles motifs de destitution. Elle pourrait envisager au moins 3 chefs d'accusation, dont abus de pouvoir, corruption et entrave à la justice. Même si le président est officiellement inculpé, son procès aura lieu devant le Sénat, dominé par les Républicains.
Environ 4,5 millions de personnes handicapées au Yémen subissent négligence et abandon face à des difficultés accrues dans un pays ravagé par 5 ans de guerre civile, dénonce Amnesty International. Ces personnes reçoivent un soutien insuffisant face à des difficultés accrues pour échapper à la violence, souligne l'ONG.
Le milliardaire grec Alcibiades Alcidavid a été condamné à payer 58 millions de dollars d'indemnité à l'une de ses assistantes qu'il harcelait sexuellement. Une sanction parmi les plus élevées de l'histoire judiciaire des États-Unis, a déclaré lundi l'avocate de la victime. Ce jugement rappelle aux prédateurs où qu'ils se trouvent qu'ils ne peuvent pas faire du mal impunément, a dit l'ex-employé, Madame Mahim Khan.
2 statues religieuses fabriquées à partir de méthamphétamine, drogue de synthèse extrêmement addictive, ont été découvertes par des agents de sécurité près de l'aéroport de Mexico.
L'actualité économique en Afrique et dans le monde avec Eric Manirakiza.
Le gouvernement nigérien a fait un dépôt de garantie de 200 millions de dollars auprès d'un tribunal britannique dans une affaire de litige gazier. Abuja avait pourtant fait appel de la saisie d'actifs pour un montant de 9 milliards de dollars. Un contrat conclu en 2010 avec la société Process and Industrial Development Limited prévoyait que le Nigeria verse 300 millions de dollars pour débuter la construction d'une usine de traitement de gaz à la pointe de la technologie dans le sud-est du Nigeria pour produire de l'électricité, mais le projet n'a jamais vu le jour. La société a poursuivi le gouvernement nigérien, l'accusant d'avoir violé l'accord en ne fournissant ni le gaz ni les gazoducs promis. L'Ouganda a ordonné une enquête de faisabilité sur la construction d'un barrage hydroélectrique à proximité des chutes Morrison, 3 mois après l'annonce de l'abandon de ce projet controversé. Ce volte-face a provoqué l'ire des défenseurs de l'environnement et de nombreux acteurs du secteur du tourisme opposés à ce projet hydroélectrique d'une capacité de 360 MW sur le Nil Victoria. Enfin, des personnes achetant un téléphone portable dans une boutique en Chine doivent accepter de se faire enregistrer par reconnaissance faciale et que leurs données soient gardées comme correspondant au numéro. Cette directive est en vigueur depuis dimanche. L'enregistrement sous identité réelle a commencé depuis au moins 2013, mais le recours à l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale est nouveau dans ce domaine.
Maintenant, place au sport. Bonjour Yakuba.
Bonjour Namit, bonjour à tous.
Pour commencer, football, Lionel Messi remporte son 6e ballon d'or.
Oui, l'Argentin a enlevé son 6e ballon d'or, un record qu'il est désormais le seul à détenir. Devant le Portugais Cristiano Ronaldo, l'attaquant du FC Barcelone, 32 ans, a devancé le Néerlandais Virgil van Dijk et le Sénégalais Sadio Mané, tous deux de Liverpool, vainqueurs de la Ligue des Champions pour succéder au Croate Luka Modric. Lionel Messi, lauréat d'un seul titre cette année, le championnat d'Espagne, est de nouveau sacré après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015. Autre prix attribué, c'est celui du trophée Copa qui récompense le meilleur joueur de l'année, âgé de moins de 21 ans. Le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, 20 ans, a succédé à Kylian Mbappé. Un Africain était nominé pour ce trophée, le Nigérian Samuel Chukwueze de Villarreal. Le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, a remporté le trophée Yashin du meilleur gardien de l'année. Il a devancé l'Allemand du FC Barcelone, Ter Stegen, et le Camerounais de l'Ajax Amsterdam, André Onana.
Chez les dames, l'Américaine Megan Rapinoe a été sacrée.
La co-capitaine de l'équipe américaine, championne du monde en juillet dernier, a remporté le 2e ballon d'or féminin de l'histoire. Megan Rapinoe, joueuse de Seattle, meilleure buteuse et meilleure joueuse du mondial, succède à 34 ans à la Norvégienne Ada Hegerberg, l'attaquante de Lyon sacrée en 2018. Elle a devancé l'Anglaise Lucy Bronze et sa compatriote Alex Morgan.
Un entraîneur limogé en plein match au Nigeria.
Et oui, en plein match. Et alors qu'il vient d'encaisser un nouveau but, l'entraîneur des Nungu Rangers, Benedict Ougou, a été viré. Un responsable du club s'est avancé au bord du terrain et a annoncé au coach qu'il était limogé en plein match. Cela faisait quelques semaines que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais la défaite contre Akwa Starlette, club promu, est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et Nungu Rangers compte une victoire, un nul et 3 défaites depuis le début de la saison et pointe à la 15e place du classement. Salisu Youssouf, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale locale, a été nommé pour le remplacer.
Terminons par le tennis, Roger Federer est désormais immortalisé.
Oui, le tennisman suisse préparant son revers emblématique en une main. C'est l'image qui va orner une pièce d'argent de 20 francs suisses frappée par la monnaie fédérale. Cette pièce sera en vente sur le site des Swiss Mint du 2 au 19 décembre et mise en circulation à partir du 23 janvier 2020. Merci à la Suisse et à Swiss Mint pour cet incroyable privilège, a commenté le joueur aux 20 titres de Grand Chelem sur son compte Twitter.
Maintenant, les résultats de la NBA. Phoenix a battu Charlotte 109 à 104. Utah Jazz s'est incliné devant Philadelphie 94 à 103. Golden State a perdu devant Atlanta 79 à 104. Indiana a défait Memphis 117 à 104. Les Knicks de New York n'ont pas fait le poids devant Milwaukee 88 à 132. Et enfin, Chicago Bulls a raflé la mise face à Sacramento 113 à 106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nanit Kalani, toujours en votre compagnie, c'est maintenant l'heure d'aborder notre tranche magazine. Destination le Mali. Deux gendarmes ont été tués à Ménaka dans leur brigade le week-end passé. Hier, dans la région de Mopti, deux soldats ont perdu la vie dans l'explosion d'une mine. Le président malien est à Paris aux obsèques des 13 soldats français tués au Mali. Ibeka préconise le dialogue national inclusif comme solution à la crise. Même son de cloche chez certains partenaires du Mali, pour eux, l'arme n'est plus la solution efficace. Kassim Traoré.
C'est à Ménaka ville que 8 hommes armés non identifiés, dont 2 sur une moto, ont tué 2 gendarmes dans leur brigade. Hier, les femmes ont été victimes d'engins explosifs improvisés à Djungani dans le cercle de Koro, région de Mopti. Le bilan est de 9 blessés, dont 2 ont succombé par suite de leurs blessures.
En réalité, les militaires maliens sont victimes des attaques récurrentes dans ces 2 derniers temps. Il y a eu une attaque contre le poste de la gendarmerie de Ménaka qui a fait 2 morts, 2 éléments de la gendarmerie. Nous avons appris qu'il y a eu une attaque à l'engin explosif improvisé sur le passage d'un convoi des femmes. Et au cours de cette explosion, il y a eu 2 personnels femmes qui ont perdu la vie. On a vu que le véhicule a été complètement désintégré. Le véhicule à bord duquel les 9 femmes y étaient à cause de la déflagration et à cause de la charge des explosifs.
Le président Ibeka était à Paris pour les obsèques des 13 soldats français tués au Mali. Sa présence est diversement appréciée à Bamako.
En tant qu'humain, c'est normal. Vu qu'ils se sont sacrifiés pour le Mali. Mais j'aurais aimé que le président malien puisse se présenter là où il y a eu trop de décès, les soldats maliens qui sont décédés. Il aurait dû faire la même chose, ce qu'on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Mais c'est décevant le fait qu'il n'a pas pu participer aux obsèques des soldats maliens. En tant que président malien, ça, c'est inacceptable.
Les chercheurs maliens Boubacar Salif Traoré trouvent que la solution politique est aussi nécessaire pour cette crise sahélienne.
La priorité, effectivement, elle est d'abord d'ordre politique. Il faut apaiser la situation politique dans ces différents États, faire en sorte effectivement que la confiance revienne au sein de la population, parce que la population est au cœur justement de ce dispositif. Et ensuite, effectivement, il faut que la stratégie militaire puisse donner en tout cas l'assurance aux populations qu'elles sont protégées, notamment à travers les armées nationales.
L'Union européenne, de son côté, est prête à aider le Mali, mais elle veut que le Mali soit maître de son destin. Bart Ouvry, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Mali.
Aujourd'hui, nous essayons de mieux faire fonctionner un véhicule qu'on ne peut pas arrêter. Il y a un besoin de sécurité aujourd'hui au Mali. Et donc, les FAMA, comme vous le dites, doivent être présents sur le terrain. Nous cherchons en effet de renforcer le dispositif, contribuer à ce que la solution vienne avant tout des Maliens eux-mêmes. Le terrorisme est aussi un enjeu pour l'Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Maliens souffrent énormément.
La solution malienne est le dialogue national inclusif, dont la date a été fixée par Ibeka lors de son dernier discours à la nation.
Notre unité et notre identité sont en jeu. L'objet de ce message est une fois encore d'inviter toutes les forces vives de la nation à participer et à contribuer au dialogue national inclusif entre dans la dernière ligne droite. Je voudrais convier toutes et tous au lancement officiel du dialogue national inclusif le 14 décembre au Palais de la Culture à Amadou Hamba Teba.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Cap sur le Sénégal, les accidents vasculaires cérébraux sont de plus en plus récurrents chez les citoyens de ce pays. Des attaques très souvent inattendues qui bouleversent la vie des victimes. Entre les mauvaises habitudes alimentaires et la prise en charge pas toujours optimale, l'AVC fait son bonhomme de chemin. De Dakar, la correspondance de Sidina Abagueyi.
Friand de bonne viande et d'aliments gras, les Sénégalais s'exposent sans le savoir à des pathologies comme l'AVC qui ne montrent pas forcément de symptômes particuliers. Cette vieille dame, sous le couvert de l'anonymat, explique que c'est durant son sommeil qu'elle a eu un accident vasculaire cérébral.
Magal Bédal.
J'ai eu une attaque le jour de la célébration du Magal. Je n'ai pas senti de douleur car je dormais. C'est par la suite qu'on m'a fait savoir que c'était un accident vasculaire cérébral. J'avais vraiment du mal à y croire. Par la suite, je me suis rendue à l'hôpital et j'ai commencé à suivre les traitements. Au moment où je vous parle, je suis venue à l'hôpital pour les mêmes raisons. Je fais des vagues de violence sans cesse.
Victor Odonou, formateur de basketball au Dakar University Club, a également été victime d'un AVC il y a un an. Ce quinquagénaire est pourtant un sportif très réputé, mais pour lui, c'est le mode alimentaire en vigueur au Sénégal qui fait qu'il est parfois difficile d'éviter les accidents vasculaires cérébraux.
Ah, il faut manger sain. Hein? Les grammes salés, sucrés, la graisse, surtout la viande de mouton là, que les gens mangent le soir, ils divisent chaque jour. C'est ça qui nous tue.
Ces propos de Victor sont confirmés par le docteur Mohamed Diagne qui estime que la multiplication des cas d'AVC est due à une mauvaise alimentation, mais aussi à la sédentarité.
Les AVC sont fréquents maintenant, surtout à cause du mode de vie et du comportement alimentaire. Le mode de vie, comme nous le savons, avec la sédentarité, qui peut amener l'obésité, le comportement alimentaire, avec surtout les bouillons qui sont riches en sel, donc pourvoyeur, l'hypertension artérielle, qui est un facteur favorisant de l'AVC.
Le médecin généraliste conseille de surveiller l'hygiène de vie, car certaines structures sanitaires sont dans l'incapacité de prendre en charge les victimes d'AVC.
Ceux qui sont à même de le prendre en charge, c'est surtout les structures sanitaires de niveau 3, où il y a des services de neurologie. Maintenant, les autres structures peuvent mettre en route les premières mesures en attendant que le malade arrive dans les services adéquats pour être bien pris en charge. Les mesures à prendre pour éviter les AVC, c'est juste d'éviter la sédentarité, de faire du sport 3 fois au moins par semaine pendant 30 minutes, de surveiller son hygiène alimentaire, bien manger, manger des fruits et légumes, éviter trop les gras, les trop sucrés et salés, et surtout éviter le tabac qui fait partie des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral.
L'accident vasculaire cérébral est une attaque qui perturbe la circulation sanguine et cause beaucoup de problèmes à ses victimes. Au Sénégal, il est généralement causé par la mauvaise hygiène alimentaire et la sédentarité des personnes qui la subissent. Ces dernières ont souvent du mal à avoir une bonne prise en charge si elles survivent, car l'AVC peut parfois être fatal. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La COP 25, la 25e conférence de l'ONU sur le climat, se poursuit à Madrid, en Espagne. Les États-Unis confirment leur retrait de l'accord de Paris l'an prochain. Les pays du Sud réclament aux pays du Nord de prendre leurs responsabilités et de les aider par tous les moyens possibles pour faire face aux désastres qui s'annoncent. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint l'activiste et ex-ministre sénégalais de l'Environnement, Ali Haïdar.
Donc avec un regard venant de l'Afrique sur ces questions, pour nous, vraiment on est plus inquiet qu'autre chose. Notamment pour l'Afrique, qui n'est pas responsable de ces questions de dérèglement climatique, mais qui subit grandement les conséquences de ces dérèglements climatiques. Alors que on sait très bien qu'on va au mur. On sait très bien que la biodiversité est en train de disparaître, que la ressource est en train de disparaître. On voit bien les terres s'acidifier, le sel gagner du terrain. On voit bien le rendement agricole, à moins d'être boosté par des produits chimiques hautement dangereux pour le climat et pour la planète et pour la santé publique. Et les rendements agricoles sont faibles à cause de justement de tout ce mécanisme qui fait que la terre est en train de mourir. Alors 8%, 10%, l'Afrique 2%, c'est encore les mêmes qui vont décider des mêmes choses et qui vont ramener tout à eux. Vraiment, ça ne nous concerne pas, nous, en Afrique.
Mais que peut faire l'Afrique subsaharienne pour justement prévenir l'environnement?
Vous savez, monsieur, il y a énormément, beaucoup plus d'argent qui quitte l'Afrique pour aller en Europe que d'argent qui quitte l'Europe pour venir en Afrique. Seulement quand l'argent quitte l'Afrique, on appelle ça business. Quand l'argent vient vers l'Afrique, de l'Europe, on appelle ça aide. Je peux donner l'exemple d'une grande entreprise française, que je ne citerai pas parce que je suis fatigué d'aller au tribunal, je n'ai pas les moyens. D'une grande entreprise française dans un pays africain, le Congo-Brazzaville, cette entreprise gagne plus d'argent dans ce seul pays que toute l'aide de la France pour toute l'Afrique. Quand l'argent part, c'est business. Quand l'argent vient, c'est aide. Alors, qui aide qui? L'Afrique est riche. L'Afrique est riche de tous ses trésors. L'Afrique est riche de tous ses peuples. L'Afrique est un continent riche. Hélas, qui est pillé par les mêmes multinationales qui nous racontent les salades quand ils se retrouvent dans les grandes conférences à raconter les mêmes histoires qu'on va changer le monde, alors qu'en fait, ils ne veulent que profiter encore plus du monde. Alors, quand je vois ces gens dans leur petit four à raconter leurs histoires, dormir debout pour changer la planète, alors qu'au quotidien, c'est eux qui la détruisent, vraiment là, ça ne me concerne pas. Il ne faut pas me mêler à ça. Je ne peux pas me mêler à ça.
Voudriez-vous dire qu'il faut plus...
Il faut arrêter de piller la planète. On ne peut pas se développer infiniment dans un milieu qui, lui, a des limites. On ne peut pas parler de croissance infiniment dans un environnement qui, lui, a des limites. On ne peut pas permettre cela. Maintenant, hélas, c'est eux qui ont les pouvoirs, et politiques, et militaires, et financiers. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ça va se casser la gueule, heureusement pour nous, que ça va se casser la gueule pour eux aussi.
C'était Ali Haïdar, activiste et ex-ministre sénégalais de l'Environnement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Notre dernier dossier du jour s'intéresse à l'unité de pharmacologie clinique et de la pharmacovigilance de la RDC qui a présenté les résultats de ses recherches sur le paludisme et Ebola à l'occasion de la 68e conférence de la Société américaine des maladies tropicales, médecine tropicale et hygiène à Washington. Eddie Isango en a discuté avec le directeur de l'unité, Dr Ntsengin Tamabialiro, et le professeur Gaston Tona Loutete.
L'équipe congolaise a présenté un produit qui devrait bientôt être utilisé en RDC. Explication du professeur Gaston Tona Loutete.
Nous avions une session sur un produit contre le paludisme sur lequel nous avons travaillé sur notre site et il était question de pouvoir donner la possibilité que ce produit puisse être introduit dans le système de santé de notre pays et particulièrement être utilisé dans le secteur public et privé.
L'automédication, devenue l'une des premières causes de la mortalité élevée en Afrique, a également été évoquée. Ébauche des solutions avec Dr Nsengi.
Il faut vraiment agir sur plusieurs niveaux pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. C'est un problème d'abord de pauvreté parce que la question de la pauvreté dépasse le cadre purement médical. Il y a plusieurs autres choses qu'il faut faire. D'un point de vue médical, premièrement, c'est essayer de comprendre de manière scientifique qu'est-ce qui se fait. Des études, connaissances, attitudes pratiques. Sinon, on ne saura pas agir. Il faut comprendre, faire des études pour comprendre comment ils le font. Pourquoi? Les motivations, les déterminants, les caractéristiques de ces personnes qui les poussent à faire cela. Une fois que l'on a ces éléments-là, on peut alors voir dans quel sens il faut orienter les mesures correctrices. Et ces mesures correctrices iront dans plusieurs sens. Vis-à-vis de la population, ce sera certainement, premièrement, l'information. On a eu des idées tout à fait fausses. On a des idées du genre, ce qui est naturel est bon, ce qui est chimique est mauvais. C'est une grosse erreur. On a beaucoup d'éléments scientifiques qui nous montrent ça. De deux, au niveau de la communauté médicale. Nous avons mené une étude il y a quelques temps sur le comportement des patients après avoir reçu une prescription médicale. Nous avons déterminé qu'il y a une responsabilité claire du médecin dans le comportement de son patient. Et donc ça, c'est un message à envoyer chez le médecin pour qu'il puisse aider les personnes. Autre message, c'est un message à adresser au niveau des gouvernants, etc. Mais comme j'ai dit, c'est un message assez complexe qui nécessiterait par exemple l'intervention des anthropologues qui peuvent mieux comprendre les sociétés et pouvoir pourquoi ils recourent à ça, comment ils le font. De notre côté, ce que nous apportons comme information, c'est de dire à tout le monde, attention, ne prenez pas n'importe quel produit pour n'importe quelle maladie. Que ce soit le produit de la médecine moderne, que ce soit le produit de la médecine traditionnelle, quand c'est mal utilisé, ça provoque des dégâts.
L'équipe des pharmacovigilance se félicite de la trouvaille de deux médicaments qui guérissent de la maladie d'Ebola. Elle encourage les gens à les accepter même s'ils sont encore sous étude.
Notre rôle dans cette étude, nous assurer que ces médicaments-là ne provoquent pas de problème chez les patients. Nous ne sommes pas seuls. On travaille avec des collègues américains du NIH. Nous analysons tous les problèmes. On est heureux de dire que jusque maintenant, on n'a pas encore ce qu'on appelle un signal. Quelque chose qui tendrait à dire que ces médicaments posent des graves problèmes.
L'unité de pharmacovigilance a rencontré les autorités américaines et a plaidé pour un appui au système sanitaire congolais.
C'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en ombre de. Un grand merci à toute la rédaction, à la console, Jimmy Cook, au micro, Nani Tetalani. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et bien sûr notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.